Je disais donc qu'on ne voulait pas que je prêche ce matin, visiblement. Alors, on va redescendre un peu de notre petit nuage de louange et d'adoration avec une question bien terre à terre. Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Alors ça, évidemment, c'est pour l'accroche, hein, c'est histoire d'être un peu taquin, mais la question est bonne. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints dernièrement. Certains d'entre vous, vous découvrez ce qu'est une église. D'autres découvrent ce qu'est une église évangélique. D'autres découvrent ce qu'est une église évangélique baptiste. Et d'autres découvrent ce qu'est l'église évangélique baptiste de Chambéry. Parce que ça change aussi parfois d'une église baptiste à une autre. Vous nous arrivez tout droit de l'athéisme, de l'islam, du pentecôtisme, du darbisme. Et dans cette diversité-là, il y en a qui voient des démons partout, d'autres qui n'en voient nulle part. Certains pensent qu'on peut accomplir les mêmes miracles que ceux que nous voyons apparaître dans le livre des Actes. D'autres pensent que ce temps-là est complètement révolu. Certains pensent que les femmes doivent se taire dans les assemblées. D'autres qu'elles peuvent être pasteurs. Certains pensent que les catholiques sont nos frères dans la foi et d'autres que l'Église catholique est la grande Babylone. Et puis il y en a aussi qui n'ont que faire de tout cela. Quand vous leur posez la question, ils vous répondent « moi, je suis chrétien ». Et ces sujets les ennuient. Alors d'une certaine façon, je dirais qu'ils ont raison parce que ces sujets sont des sujets secondaires et j'espère que quelles que soient nos convictions sur tous ces sujets, nous sommes capables de nous accueillir et de nous regarder les uns les autres comme les frères et sœurs dans la foi que nous sommes. Néanmoins, tout secondaire que soient ces sujets, ils ont un impact profond sur la manière de vivre l'Église. D'où la question initiale, qu'est-ce que vous faites là ? Ou pour le dire autrement et de manière peut-être plus positive, est-ce que vous savez où vous avez mis les pieds en venant dans cette communauté ? Alors évidemment, c'est à nous de vous y aider, c'est à nous de nous présenter. Alors en conseil pastoral, on a identifié un certain nombre de sujets sur lesquels il nous semble intéressant de présenter notre positionnement. Parfois, c'est un positionnement assumé de manière explicite par l'Église. Et puis d'autres fois, il est un peu plus implicite, mais il est quand même là, quelque part, inscrit dans notre ADN, et il est bon que vous le sachiez. C'est ainsi que de maintenant jusqu'à janvier, je vais entamer une série de prédications intitulée « Position », parce qu'il fallait lui donner un nom, destinée à vous présenter notre manière d'aborder un certain nombre de sujets. Alors il y a un sujet où nous avons un positionnement explicite jusque dans nos statuts et que je n'aborderai pas, d'une part parce que je l'ai déjà fait et d'autre part parce que si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous le trouverez abordé dans 3 vidéos, c'est la question du ministère pastoral exercé par une femme. Pour les autres sujets, voilà ce qui est prévu. Pour l'instant, ça ne marche pas. Est-ce que c'est allumé ? C'est allumé. Voilà. Je sais pas, c'est toi qui as passé ou c'est moi ? Ok, super. Le calendrier prévu, c'est le suivant. Donc aujourd'hui, on va parler de l'accueil des enfants. Comment est-ce qu'on accueille les enfants dans notre église ? Comment est-ce qu'on les accompagne ? Le 15 octobre, nous aurons l'exercice des charismes et en fait, plus particulièrement, on parlera de la question de la guérison. Le 22 octobre, on parlera de l'action sociale. Le 19 novembre, du baptême sur confession de foi. Le 26 novembre, on parlera de la grâce et de la loi. Et le 21 janvier, on parlera de l'œcuménisme. Voilà, donc on abordera chacun de ces sujets. Pour aujourd'hui, hop, je suis allé trop loin. Pour aujourd'hui, je vais profiter du fait qu'ils sont partis pour vous dire qu'on a un problème. On a un problème de taille parce qu'ils sont parmi nous. Ils sont partout. Ils sont dans chaque salle de l'Église, dans chaque famille. Et rien qu'au sein de notre communauté, ils représentent un bon quart de l'Assemblée chaque dimanche. Et pourtant, ils ne sont pas chrétiens. En tout cas, pas tous. Parce que non, nos enfants ne naissent pas chrétiens. Et ça, ça pose une question qui est celle de leur place dans l'Église. Parce que l'Église, c'est la communauté des croyants. C'est la communauté de ceux qui professent leur foi en Jésus-Christ. Alors évidemment, certains d'entre eux l'ont fait, on le sait ou on ne le sait pas. Il y en a qui l'ont fait peut-être dans le secret de leur chambre, qui l'ont fait peut-être devant leurs parents ou dans un camp, et ils sont en bonne voie vers le baptême, mais ça n'est pas le cas de tous nos enfants. Et en même temps, on sent bien que nos enfants, même nos tout-petits, même ceux qui n'ont pas encore la parole pour confesser Jésus-Christ comme leur Seigneur, ne sont pas étrangers à l'Église comme pourrait l'être un curieux de passage qui a vu de la lumière et qui est rentré. Dieu les a fait naître dans nos familles, il les a placés au milieu de nous, il nous demande de prendre soin d'eux et de les éduquer dans la foi. Alors, quelle place accordée parmi nous à ces petits êtres singuliers? Par exemple, s'ils ont quelques talents musicaux, est-ce qu'ils peuvent animer la louange alors qu'ils n'ont pas encore pris publiquement position par le baptême? Ou pour le dire d'une manière peut-être plus provocante, est-ce qu'un non-chrétien peut emmener l'assemblée dans l'adoration? C'est une vraie question que celle-ci, c'est une question théologique, éthique, morale. Et ce matin, on va réfléchir à la manière dont nous accompagnons nos enfants sur le chemin de la foi dans notre Église. C'est à la fois un constat qui est basé sur, je dirais, l'observation de comment cette Église fonctionne. Et puis, c'est aussi une direction voulue, une direction souhaitée par le conseil pastoral et, je le crois, par les générations qui nous ont précédés ici. Sur le chemin de la foi où se trouvent nos enfants, il y a trois indispensables, d'où le titre, qui justifient, je crois, notre manière de faire, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais avant, je vais prier, et ensuite nous irons lire trois textes, deux dans le Deutéronome, on m'a dit que je prononçais mal Deutéronome, donc je m'entraîne, Deutéronome, chapitre 6 et chapitre 11, et puis un dans l'Évangile de Marc. Deutéronome 6, alors c'est ici, si vous n'avez pas vos Bibles, je te demanderai, Claire est là, je ne la vois plus, elle a disparu, ok, eh ben, je ne demanderai rien à Claire, je me débrouillerai et je lirai depuis l'écran, mais je vais prier d'abord. Seigneur, ça a été dit ce matin déjà dans une prière, nous sommes reconnaissants pour ta parole, nous sommes reconnaissants pour sa richesse et en même temps nous reconnaissons devant toi que nous pouvons l'aborder parfois avec un cœur tout sec, peut-être parce que nous nous astreignons à l'obligation de la lire et du coup nous faisons ça comme un devoir et en fait nous la lisons mais nous ne la lisons pas. Seigneur, nous voulons la lire ce matin. Nous voulons aussi nous laisser lire par elle. Seigneur, nous aspirons à ce que ce temps de lecture soit une rencontre avec toi, une rencontre profonde où tu viens transformer nos vies, nos cœurs, notre entendement, nos pensées, nos manières d'être, d'agir, parce que ta parole est vivante et qu'elle est efficace. C'est ce que nous te demandons maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alors, le premier texte se trouve dans Deutéronome 6, on va lire les versets 1 à 9, et j'espère que mes yeux vont tenir. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et que tu craignes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. ça passe plus. À mon avis, j'ai un problème de pile. Ok, hop, ça y est. 6, 1, 9. Le deuxième texte est toujours dans le Deutéronome, on le trouve au chapitre 11. On va lire également les versets 1 à 9. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, et tu obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné, à ses lois, ses ordonnances, ses commandements. Contrairement à vos enfants, qui n'en savent rien et qui n'ont pas vu tout cela, vous qui êtes là aujourd'hui, vous savez ce que l'Éternel vous a appris, sa grandeur, ses déploiements de puissance, ainsi que les signes miraculeux et les œuvres qu'il a accomplies en Égypte contre le Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Vous avez vu comment il a traité l'armée égyptienne, ses chevaux et ses chars, comment il a fait déferler sur eux les eaux de la mer des roseaux lorsqu'ils vous poursuivaient, et comment il les a fait disparaître pour toujours. Et vous savez tout ce qu'il a fait pour vous dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Comment il a traité Dathan et Abiram, fils d'Éliab, de la tribu de Ruben, quand la terre s'est fendue sous leurs pieds et les a engloutis avec leurs familles, leurs tentes et tous leurs partisans en Israël. Oui, c'est de vos propres yeux que vous avez vu toutes les œuvres extraordinaires que l'Éternel a accomplies. Obéissez donc à tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, alors vous serez forts et vous pourrez conquérir le pays dans lequel vous êtes sur le point d'entrer pour en prendre possession. Et vous prolongerez vos jours sur la terre ruisselant de lait et de miel que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres et à toute leur descendance. Et puis le dernier texte qui est un classique au sujet des enfants, Marc 10, donc dans l'Évangile, versets 13 à 16, qui nous dit que des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits-enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Jusque-là, la lecture de la parole. Entre les textes du Deutéronome et celui de l'Évangile, ce qui, moi, me saute aux yeux, c'est la différence de ton et d'approche. Alors, il y a une raison à ça. Déjà, les contextes sont très différents. Dans le Deutéronome, on est dans un discours de rappel de la loi, tandis que dans l'Évangile, on est dans une scène de la vie quotidienne de Jésus et de ses disciples. Donc, le contexte n'a rien à voir. Mais quand même, la manière qu'a Jésus d'aborder la question des enfants, je trouve, est frappante. Il ne l'aborde pas sous l'angle de la loi, qu'il ne rappelle même pas, mais il l'aborde sous l'angle de la relation. Il les prend dans ses bras, il les bénit, et comble du comble, il les donne en exemple à ses propres disciples quand ceux-ci essayaient justement de les empêcher d'approcher du maître, de l'enseignant. On pourrait se dire qu'entre l'appel à l'obéissance à la loi de Moïse dans l'Ancien Testament et puis cette tendresse de Jésus dans le Nouveau Testament, il y a comme un changement de paradigme. Eh bien, il n'y en a pas. Il y a mieux que ça. Deutéronome 6,4 nous le rappelle, « Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. » D'autres traductions, peut-être plus proches du texte hébreu, disent « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un ». C'est l'affirmation centrale et première de la confession de foi d'Israël. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de changement de paradigme entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'y a pas d'un côté un Dieu sévère et légaliste et de l'autre le doux Jésus qui prend les enfants dans ses bras et qui les bénit. C'est le même Dieu. Et pour nous en approcher avec justesse, on a besoin de l'ensemble de la révélation. Alors, qu'est-ce que nous révèle le Deutéronome ? Deutéronome, littéralement, ça veut dire « deuxième loi ». Il ne faut pas entendre par là qu'il y aurait eu une première loi, puis ensuite une deuxième qui serait venue remplacer la première. En fait, le Deutéronome, c'est une reprise de la loi qu'on trouve dans les livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres. En quelque sorte, avec ce livre, avec le Deutéronome, Dieu nous en remet une deuxième couche au cas où la première n'aurait pas suffi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est important. C'est important. Concernant les commandements, je crois qu'on peut résumer en deux phrases ce que Dieu nous demande dans le passage que nous avons lu dans Deutéronome 6. Obéissez aux commandements et enseignez-les à vos enfants. Et les Juifs ont pris ça très au sérieux. Quand Dieu dit en Deutéronome 6, verset 8, à propos de ses commandements, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes, ils l'ont fait littéralement. On voit là ce qu'on appelle des téphilines. Donc c'est ce qui s'accroche ici, ce sont des petites boîtes en cuir qui s'accrochent sur le front et donc sur le bras, comme il est dit, hein, qu'il soit attaché comme un signe sur ta main, comme une marque sur ton front. Et puis on a là une mezouza qui est une petite boîte accrochée sur le fronton des maisons, sur les montants des portes. Et là-dedans, il glisse des textes bibliques, trois textes en fait du Pentateuque, dont les deux textes du Deutéronome que nous avons lus. Alors, s'ils ont eu un tel zèle pour appliquer ces paroles de la loi, vous pouvez imaginer comment ils auront reçu celles qui disent toujours à propos des commandements « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Chez toi, c'est-à-dire au sein de ton foyer. Sur la route, c'est-à-dire quand tu es en dehors de ton foyer. Quand tu te coucheras, c'est-à-dire juste avant d'aller dormir. Quand tu te lèveras, c'est-à-dire dès ton réveil. Autrement dit, tu inculqueras mes commandements à tes enfants partout, tout le temps, dès que l'occasion se présentera. Il ne s'agit donc pas tant d'un enseignement formel le dimanche matin entre 10h30 et 11h15 que d'un enseignement au fil de l'eau, dans le cours même de la vie quotidienne, afin d'amener nos enfants à réfléchir à ce qu'ils font à la lumière de la loi de Dieu. Est-ce que c'est là ce que nous faisons dans nos familles? En tout cas, c'est notre responsabilité, c'est ce à quoi nous sommes appelés, et ça, c'est quelque chose que l'Église Junior, qui est notre école du dimanche, où nous enseignons donc nos enfants le dimanche matin, c'est quelque chose que l'Église Junior ne peut pas pallier. L'Église junior vient renforcer ce qui se vit dans les familles. Elle vient renforcer, mais elle ne vient pas remplacer. Transmettre la loi de Dieu à nos enfants, ses commandements, tout au long de notre vie quotidienne, lorsque nous sommes chrétiens, c'est notre travail de parents. Mais il n'y a pas que ça à transmettre. En Deutéronome 11, nous avons lu « Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu » et tu obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné, à ses lois, ses ordonnances, ses commandements. Ça, on l'a déjà lu en Deutéronome 6, d'une certaine manière. Mais là, le texte ajoute, contrairement à vos enfants qui n'en savent rien, qui n'ont pas vu tout cela, vous qui êtes là aujourd'hui, vous savez ce que l'Éternel vous a appris, sa grandeur, ses déploiements de puissance, ainsi que les signes miraculeux et les œuvres qu'il a accomplies en Égypte contre le Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Et les versets qui arrivent ensuite rappellent la traversée de la mer Rouge, la marche dans le désert et le châtiment de ceux qui se sont révoltés. Et tout ça, c'est de l'ordre de l'expérience. Et c'est aussi à transmettre notre expérience. Au point que le Seigneur a institué des fêtes pour cela. Vous avez Pessah, qui est la Pâque juive, qui célèbre la sortie d'Égypte. Vous avez Soukhot, qui est la fête des cabanes, qui commémore le temps passé dans le désert durant l'Exode. Ce n'est pas juste une transmission orale, c'est une transmission qui passe par l'expérience, qui touche tous les sens. Nos enfants ne doivent pas seulement entendre la loi de Dieu, comme une loi à laquelle il faudrait obéir parce que c'est comme ça, mais ils doivent encore expérimenter avec nous, en famille, la présence de Dieu au cœur même de notre vie familiale. Et cette expérience vécue ensemble, elle implique nos sens. À Pessah, les Juifs mangent en famille du pain sans levain pour revivre le départ précipité du peuple qui n'a pas eu le temps d'attendre que la pâte lève lors de la fuite. À Sukkot, ils construisent des cabanes et ils vont vivre dedans pendant une semaine pour revivre l'expérience de nomadisme du peuple dans le désert. Et ce que tout ça nous dit, c'est que la transmission de la foi, c'est pas seulement une affaire de bouche à oreille, d'apprentissage de versets, c'est aussi une expérience sensitive à vivre ensemble. Et en tant que parent, je me réjouis quand je reçois les petits comptes rendus des réunions du groupe des mésanges, désolé pour les autres, mais c'est là où sont mes enfants, et que je vois des choses comme ça. Cette année, quand ils ont parlé de Jésus, lumière du monde, ils ont expérimenté ce que la lumière apporte dans les ténèbres. Il y avait au milieu d'eux des bougies. Quand ils ont parlé du repas de la Pâque, ils ont dressé une table, ils ont vécu quelque chose de ce repas. Quand ils ont parlé du procès de Paul, eh bien vous le voyez, ils l'ont mis en scène, ils l'ont rejoué, ils l'ont vécu. Et ce n'est pas juste une coquetterie de quelques farfelus créatifs de notre assemblée, comme celui qui est derrière moi. C'est dans la droite ligne en fait, de la pédagogie de Dieu qui veut que la transmission de la foi soit non seulement une transmission d'information, mais aussi une transmission d'expérience. Et pourtant, quand on a fait tout ce chemin-là, il manque encore un ingrédient. Que voici, que voilà. Ce qui change entre le Deutéronome et l'évangile de Marc, ça n'est pas Dieu, évidemment, ça n'est pas même son intention, évidemment. Ce qui change, c'est qu'entre l'un et l'autre, un événement majeur est venu éclairer le sens profond des Écritures de l'Ancien Testament. Et cet événement, bien sûr, c'est la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on le sait, n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et l'accomplissement des paroles du Deutéronome que nous avons lues se trouve en bonne part, je crois, dans cette scène de l'Évangile où nous voyons comment Jésus accueille les tout-petits. Nous avons vu comment les Juifs ont fait pour attacher les commandements comme un signe sur leur main, comme une marque sur leur front, comment ils les ont inscrits sur les poteaux de leur maison. Et je ne veux absolument pas caricaturer leur foi et leur zèle, parce que s'il y a bien des gens qui ont pris la parole de Dieu à cœur, ce sont les Juifs. Mais évidemment, ce que demandent ces versets, on sent bien que ce n'est pas que ces commandements restent en surface. On peut raisonnablement supposer que ce qui nous est demandé, au fond, c'est que ces commandements viennent toucher tout ce que nous faisons, d'où la référence aux mains, qu'ils soient attaché comme un signe sur nos mains et tout ce que nous pensons, d'où la référence au front. Le verset 6 de ce même passage de Deutéronome 6 dit d'ailleurs que ces commandements doivent rester gravés dans nos cœurs. Le cœur, dans la culture hébraïque, c'est comme pour nous le siège des émotions, mais c'est aussi celui de la volonté et de l'intelligence. Autrement dit, c'est cette espèce de force intérieure qui nous met en mouvement. Et cette idée que les commandements doivent être gravés sur notre cœur nous indique déjà cette grande vérité, c'est qu'ils doivent être intériorisés. Ça n'est pas tant une loi qui nous vient de l'extérieur et à laquelle nous devons obéir, qu'une loi à laquelle notre cœur doit adhérer. Autrement dit, ça ne devrait pas être une obligation d'obéir à cette loi. Ça devrait être notre joie et notre plaisir, parce que notre volonté s'accorde à la volonté de Dieu, parce que notre intelligence s'accorde à l'intelligence de Dieu, parce que nos émotions s'accordent aux émotions de Dieu. Le problème, c'est qu'on est absolument incapable de produire ça par nous-mêmes. C'est le terrible constat dont la Bible se fait écho partout dans l'Ancien Testament. Si vous essayez de suivre scrupuleusement la loi de Dieu, si vous faites tous vos efforts pour ça, ce que vous trouvez au bout, c'est un constat d'échec systématique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est ce que nous dit Paul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est en Romains 3 qu'on lit ces versets-là. Notre justice, celle qui nous permet d'ailleurs de nous approcher de cette table à laquelle nous serons invités tout à l'heure, elle ne provient pas de notre capacité à obéir à la loi. Notre justice, elle nous vient du Christ, lui qui, sans péché, est mort à notre place, lui qui était innocent et qui a pris sur lui notre péché. notre péché lui a été imputé, il a reçu la condamnation qui devait tomber sur nous, et en retour, il nous a revêtus de sa justice. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est une grâce qui nous est faite, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Et pour celui qui croit cela, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. C'est une promesse qui nous est faite dans la Bible, et c'est ça qui change tout, c'est que Dieu lui envoie son Esprit Saint. Et c'est lui, c'est l'Esprit Saint, qui renouvelle de l'intérieur notre volonté, notre intelligence, nos émotions, afin qu'elles s'accordent à celles de Dieu. Ézéchiel l'avait prophétisé, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre être votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon propre esprit, je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » C'est Ézéchiel 36. Ça, ce n'est pas notre œuvre à nous, on le voit bien, c'est l'œuvre de Dieu qui fait son œuvre de transformation de nos cœurs pour que notre volonté s'accorde à la sienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas transmettre à nos enfants. L'Esprit Saint vient d'en haut. On peut transmettre la loi de Dieu. On peut faire goûter à nos enfants, on peut faire goûter Dieu, pardon, à nos enfants par leur sens, par l'expérience, mais on n'a pas cette capacité de leur donner l'Esprit Saint. Par contre, nous pouvons labourer le terrain de leur cœur. Nous pouvons les rendre sensibles et réceptifs à l'amour de Dieu pour eux. Nous pouvons favoriser le fait que la semence de Dieu, que la semence de la parole de Dieu tombe dans de la bonne terre. Comment ? Eh bien, par la relation. Quand Jésus prend les enfants dans ses bras, quand il les bénit, quand il met en valeur cette capacité qui est la leur de s'abandonner en confiance dans les bras d'un plus grand qu'eux, il leur dit en quelque sorte, c'est pour vous aussi. Vous comptez. Vous avez de la valeur à mes yeux. Il crée de la relation avec eux et il leur dit, tant que vous restez avec ce cœur d'enfant qui accourt dans les bras du Père en confiance, le royaume de Dieu est pour ceux qui vous ressemblent. Tant que vous ne vous en écartez pas, tant que vous ne me rejetez pas, moi je vous accueille. Ça ne veut pas dire que les enfants n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils sont pécheurs, ils ont besoin, comme nous tous, de repentance. Mais ça veut dire, en tout cas, que l'a priori posé sur eux est un a priori positif. Alors nous aussi, nous prenons le parti de la confiance. Nous voulons croire qu'ils vont grandir dans la foi, qu'ils vont rester fidèles à ce Dieu qui leur est fidèle, qu'ils vont aimer ce Dieu qui les aime, qu'ils vont chercher en lui leur salut et qu'un jour, ils vont manifester leur appartenance au Christ par leur baptême, parce qu'ils l'auront connu et qu'ils auront été connus de lui. Et j'observe, et c'est ici dans cette église que je l'ai appris, que les aborder de cette façon portent de beaux fruits. Normalement, il y a du son, et là, il n'y en a pas. Est-ce qu'il est possible d'avoir du son ? On va réessayer. Et normalement, j'arrive à relancer le truc, mais là, j'y arrive pas. Voilà, c'est ça. Merci. They think that I'm all by myself in this fight, but they do not know the infinite size of the God who is by my side. Hey, under fire, but my Goliath's standing in the shadow of the Almighty. I ain't lying, just testifying. Man, I'm talking about a big God. Voilà, donc ça c'est un petit montage vidéo du week-end de rentrée du groupe de jeunes qui a eu lieu dernièrement, je ne sais plus, il y a deux semaines, c'est ça ? Oui. La semaine dernière même c'était, je crois. Oui. Alors, ils font pas que des jeux et manger des crêpes toute l'année. Ils font pas que ça. Mais ce que je vois là, ce sont des jeunes, non pas qui viennent à l'église, mais qui vivent l'église, qui sont ici chez eux, qui prennent plaisir à être ensemble et à grandir ensemble dans la foi. Le fruit, ce sont des jeunes qui témoignent de leur foi non seulement par le baptême, je rappelle qu'on a vécu des baptêmes par paquet de 7 l'année dernière, mais aussi dans leur quotidien, et je voudrais juste donner cette anecdote, je ne l'ai pas dit à la personne en question, mais de toute façon je ne vais pas dire son nom, et je terminerai là-dessus. Il y a quelques semaines, j'ai vu une jeune de notre église partager sur les réseaux sociaux de superbes versets calligraphiés et peints à la main. Alors déjà, ça c'est chouette et c'est déjà un témoignage en soi. Mais quand je lui ai demandé si c'est elle qui les avait faits, parce que vraiment c'était joli, elle m'a répondu qu'elle les avait faits avec une autre jeune de l'église et que le projet, c'était de se rendre en centre-ville pour les distribuer. Et ça, ce n'était pas une action d'évangélisation organisée, quelque chose qu'on avait prévu, etc. C'était ce qui transpire de leur cœur. C'est ça qui transpire de leur cœur. Alors dans ce cœur-là, je crois que sont gravés effectivement les commandements de Dieu. Si je ne me retenais pas, je vous promets, j'en pleurerais d'émotion. Mais je me retiens parce que je suis pudique. N'empêche, quelle aventure. Quelle aventure que celle d'être responsable de ces petits êtres que le Seigneur nous confie. Transmettre les commandements dans le cours même de notre vie quotidienne. Transmettre notre expérience de Dieu en sollicitant tous les sens de façon à ce que ce soit aussi une expérience pour eux. Transmettre l'intimité de la relation, celle qui nous fait dire « Abba Père ». L'Église, elle est là pour ça, et elle fait ce qu'elle peut. Mais en même temps, chacun son rôle, aux parents de vivre leur foi sans tabou, et à l'Église d'enfoncer le clou. C'est bien dans ce sens-là que ça se passe. Et si on commençait aujourd'hui même ? Et si, à la dernière heure du soir, celle où déjà les yeux piquent, nous racontions à nos enfants une histoire. En nous appuyant sur un texte biblique, on pourrait raconter la rencontre étonnante, déroutante, magnifique de celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Ça serait déjà un premier pas, et celui-là, c'est à vous de le faire. Je vais prier. Seigneur, c'est une telle joie de voir autant d'enfants et autant de jeunes parmi nous. Une telle joie de les accueillir, de les voir grandir, et une telle joie aussi de les voir heureux d'être là, contents de venir à l'église, contents d'y retrouver les copains, contents aussi de s'approcher de toi, de découvrir qui tu es. Seigneur, aide-nous à être de bons témoins pour eux devant toi, Seigneur. Aide-nous à leur faire goûter quelque chose de qui tu es, Seigneur. Aide-nous à leur transmettre les commandements d'une manière qui soit pertinente, où ils puissent comprendre quelle est leur utilité dans leur vie de tous les jours, Seigneur. Et pour ça, aide-nous à comprendre les opportunités que toi tu nous donnes du lundi au dimanche dans le quotidien de nos vies quand ils affrontent leurs propres difficultés, quand ils se posent des questions. Aide-nous à saisir ces occasions pour leur montrer combien ta parole est pertinente pour leur vie, combien elle est actuelle pour leur vie. Aide-nous aussi, c'est vrai, à leur faire goûter qui tu es dans la joie de notre relation avec toi, qu'ils puissent partager ça avec nous parce que tu les as placés dans nos foyers, dans nos vies. Tu nous les as confiés, Seigneur, et nous savons que voilà, ils ne sont pas nés parmi nous par hasard. Ils ne sont pas à côté de nous par hasard. Tu penses à eux, tu prends soin d'eux. Seigneur, aide-nous aussi à leur montrer la profondeur de cette relation que nous avons avec toi, et donc aide-nous à être dans une relation profonde avec toi. Nous reconnaissons que nous sommes souvent à côté de la plaque, que nous ne sommes pas toujours de bons exemples. Aide-nous au moins à leur demander pardon quand il le faut, à nous mettre à leur hauteur, à leur parler avec leurs mots, comme tu nous parles avec les nôtres. Seigneur, aide-nous à leur présenter qui tu es. Et nous te prions aussi pour que toi tu agisses, que oui, qu'ils puissent à un moment donné te reconnaître comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, qu'ils puissent se reconnaître pécheurs devant toi et t'accueillir pour ce que tu es, notre Dieu, notre Maître, celui qui est venu nous chercher là où nous nous trouvions, dans nos ténèbres, et qui nous a amenés à sa lumière. Ça, Seigneur, c'est ton œuvre. Nous croyons vraiment que tu as mis ces enfants dans nos familles pour une raison, que tu as un plan pour eux, que tu aspires à les voir venir à toi. Alors, je crois que nous ne te demandons rien que tu ne veuilles leur donner. Nous te prions maintenant pour ceux qui sont là, tout de suite, dans les salles de l'église junior. Viens toucher leur cœur, bénis-les, Seigneur, et permets-nous de nous réjouir en communauté, de les voir grandir avec toi et s'engager avec toi. Amen. Nous allons avoir maintenant le temps de Sainte-Cène. Je vais laisser la place à Emmanuel.